Cube Radio.
Brady et sa bande savourent la victoire d'un Super Bowl qui n'aura malheureusement pas tenu ses promesses. Pour une deuxième année consécutive, un Québécois remporte le Super Bowl. On revient sur l'incroyable journée d'Anthony Auclair. La NFL récompense ses meilleurs joueurs. Des surprises? On analyse tout avec nos experts. Quelles histoires seront à suivre pendant la saison morte? Les yeux déjà tournés vers la prochaine saison, la zone payante analyse les équipes favorites pour la saison 2021 de la NFL. Bonjour tout le monde, bienvenue à la zone payante. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné. Heureux de vous retrouver cette semaine, la semaine qui suit le Super Bowl. Et j'accueille mes deux experts, Stéphane Cadorette du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Steph.
Salut, c'est toujours un peu le cœur gros après le Super Bowl quand même.
Eh oui, Jean aussi a sans doute le cœur gros. Jean Carrier qui est avec nous, analyste des matchs du Rouge et Or et ancien entraîneur de football. Salut Jean.
Salut, oui, puis écoute, dernier show de l'année les gars, là, c'est pas rien.
Dernier show de l'année, de la saison.
De la saison, on va dire.
Exact, t'as raison, parce que la saison de la NFL se conclut avec le Super Bowl. Et cette année, il y a des déceptions. C'est sûr que le Super Bowl n'a pas livré la marchandise. Nous-mêmes, la semaine dernière, je réécoutais notre segment et on se disait, Jean, t'es lui qui a eu la meilleure prédiction. T'as dit, s'il n'y a pas un bon match, ben on va être déçu. C'était peut-être la plus facile à avoir, mais t'avais raison. C'est quoi vos impressions, les gars, sur le Super Bowl? Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a le temps. Prenons le temps de parler du Super Bowl. 55e Super Bowl remporté par Tom Brady et les Buccaneers.
Il n'y a pas eu de match comme tel. T'sais, c'est la première impression que ça nous laisse. Ils ont dominé du début à la fin. Ils se sont imposés, les Buccaneers, dans les tranchées, là. Il n'y a pas eu de recette miracle. C'est pas parce qu'ils ont été innovateurs ou quoi que ce soit et qu'ils nous ont jetés à terre. C'est vraiment qu'ils ont dominé sur la ligne défensive et sur la ligne offensive. À l'attaque, ils ont été capables d'établir le jeu au sol. Ça, c'était pas donné, là, parce que les Buccaneers, avant le match, étaient 28e là, au niveau de la course. Donc, ils ont été capables d'établir le jeu au sol. Les play-action, après ça, ont été beaucoup plus efficaces pour Tom Brady. Tom Brady qui a connu un fort match, très bien appuyé par sa défensive. Là. Vraiment, au niveau défensif, ça a été extraordinaire. Les Bucs qui ont été capables d'appliquer la pression la plupart du temps à 4 joueurs, là, pas nécessairement beaucoup de blitz dans cette rencontre-là. La tertiaire qui a bien joué aussi, moi, c'était une de mes craintes par rapport aux Buccaneers, c'était l'expérience ou le manque plutôt d'expérience de la tertiaire. C'est tous des gars de 3 ans d'expérience ou moins. Je me demandais comment ils allaient réagir, mais vraiment... Chapeau à cette équipe-là qui a fait un bel effort d'équipe. T'sais, c'est Brady qui repart avec le MVP. C'est pas que c'est pas mérité, là, parce qu'il a connu un très bon match. Il a été efficace, complété au-dessus de 70% de ses passes. Mais vraiment, défensivement, le travail de Shaq Barrett dans cette rencontre-là m'a jeté à terre. Il devient agent libre. Ça va être très important de le garder pour les Buccaneers. On regarde la feuille statistique. Tu te dis, ah, il y a seulement un plaqué, un sac du corps. Allez voir un peu plus loin, il a été frappé, Patrick Mahomes, 4 fois. Puis ça compte pas toutes les fois qu'il a appliqué la pression, qu'il a été dans sa face constamment. Pour moi, c'est vraiment le joueur qui m'a le plus marqué dans cette rencontre-là.
De mon côté, c'est simple. Oui, moi, ce que j'ai retenu avant toute chose, c'est que c'est pas un super spectacle. Ça m'a vraiment fait penser, les gars, au match entre les Seahawks puis les Broncos de Denver en 2014.
Ouais.
Quand le ballon avait commencé par-dessus la tête de Manning.
Ouais, exact. Puis tu sais, ça avait été...
Il n'y a pas eu de match.
À sens unique, il n'y a pas eu de match. C'est les Seahawks avaient dicté la loi dans ce match-là du début à la fin. Mais c'est un peu la même chose qui est arrivée dans le match-là avec les Chiefs. Les Bucks ont été assurément la meilleure équipe. Vraiment pas aimé l'arbitrage en première demi. Non,
mais là, c'est un peu la courbe que je voulais vous lancer là au milieu de votre analyse. Là. Tout le monde a eu un peu le même réflexe là, quand ils ont vu 3-4 pénalités de suite, puis que le match aurait pu être 17 pour les Chiefs, mais c'est devenu 14-3 pour Tampa Bay. Est-ce que ça a été le seul point tournant du match?
Non, pas pour moi, parce que ça reste que, tu sais, ils ont tellement dominé sur les fronts que ça a simplement, ça aurait peut-être prolongé un peu
l'intérêt
du match, mais pas pour longtemps. Tu sais, la vérité, c'est qu'ils se sont fait dominer de A à Z les Chiefs sur toutes les phases de jeu. Donc, ils méritaient pas de gagner, vraiment pas.
Quand ton équipe perd 31-9, si ta grande excuse c'est les officiels, va chercher ailleurs. Là, tu sais, c'est tout simplement pas sérieux. Oui, ça a brisé un peu le rythme du match au deuxième quart, particulièrement. Il y a eu 90 verges de pénalité aux Chiefs au deuxième quart. C'est certain que ça joue contre eux, mais faut dire qu'il y a des pénalités là-dedans qui étaient méritées aussi. Là.
Ouais, exact.
Ils ont perdu leur sang-froid à quelques occasions. C'était une équipe qui semblait trop émotive, on dirait, là, pour gérer ses émotions comme du monde là, dans un moment comme celui-là.
Mais ce qu'on va retenir également, ben, c'est le fait que Tom Brady a fermé la porte à Patrick Mahomes à vie pour si quelqu'un pensait que Mahomes avait des chances peut-être de rattraper Brady un jour, ben, la porte, je pense, vient de se fermer. Il a quand même perdu contre un Tom Brady de 43 ans, Patrick Mahomes. Et l'autre point, ça, pas beaucoup de personnes en ont parlé, mais pour moi, c'est une victoire du football traditionnel. Avec les ailiers rapprochés, avec le jeu au sol classique, avec un centre arrière par moment, des bonnes vieilles feintes de course, puis on lance le ballon, une attaque, ce qu'on appelle une attaque pro classique de la NFL, face à ce que je dirais la nouvelle NFL que les Chiefs avaient incarnée depuis 2, même 3 ans, où ce qu'on lève le ballon très souvent. On complète avec un très haut taux d'efficacité.
Ouais, puis on a vu aussi que leurs jeux, tu sais, qui sont un peu plus longs à se développer, ont pas fonctionné non plus cette en fin
de saison. Non, je te parlerai un peu plus tard là, du plan de match défensif qui était excellent, mais la vérité là-dedans, les gars, c'est quand tu domines les fronts, tu perds pas de match de football. Puis c'est là que moi, je m'en veux personnellement d'avoir choisi les Chiefs dans ce match-là. Ben, je peux pas croire que quelqu'un qui a autant d'expérience que moi, qui a vu autant de films dans sa vie, puis qui connaît, puis qui sait que la règle d'or au football, c'est si tu domines les fronts, tu vas gagner. J'ai choisi les Chiefs dans ce match-là. Et je me suis fait aveugler un petit peu par le mirage qui était les Chiefs puis Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, c'est vrai, c'est le meilleur joueur de la NFL pour moi. Il l'a, pour moi aussi, prouvé d'une certaine façon dans le match. Parce que des fois, on dit, dans les moments difficiles, on voit quel genre de joueur, tu sais, quel genre de joueur dans l'adversité qui se révèle. Ben, on voit que Patrick Mahomes est un joueur incroyable. Il a fighté, les gars, du début à la fin. Il a couru pour sa vie toute la rencontre. Il a jamais abandonné. Je peux te garantir une chose, Cam Newton, il aurait pacté ses petits puis il aurait quitté la ville bien avant la fin de la rencontre. Patrick Mahomes, lui, il est resté là. Il a affronté la tempête jusqu'à la fin. C'était ce qu'on appelle un bon vieux beat down. S'est fait frapper de partout, puis il est resté là, puis il était blessé, puis il a essayé. Ça a pas fonctionné, mais moi j'ai encore plus de respect pour Patrick Mahomes.
Puis moi, le match s'est quand même joué en quelque sorte en première demi parce qu'il y a eu plusieurs joueurs qui ont un peu abandonné justement Patrick Mahomes. Il y a plusieurs échappés, Tyreek Hill, Travis Kelce à des mauvais moments. Est-ce que il y a eu un peu d'abandon autour de lui de Patrick Mahomes?
C'est dur à dire, mais moi je pense pas là. Tu sais, une passe échappée, ça peut arriver. C'était pas le moment. C'est un moment important. Je me rappelle surtout l'attrapé échappé de Kelce, ça a fait mal parce que les Chiefs venaient d'arrêter sur le 4-1. C'était la séquence offensive qui avait arrêté 4 et les buts, les box. Il avait repris, il avait eu un premier jeu. Là, tu te dis, ben là, s'il fait le catch, peut-être que les Chiefs vont prendre du momentum. Fais pas le catch et redonne le ballon au box. Puis c'est ça. Écoute, après ça, ben.
Puis c'est après ça qu'il y a eu le fameux dégagement de 29 verges aussi.
Oui, aussi.
Sur les 3 phases du jeu, les Chiefs ont été dominés. Ils étaient. On a rarement vu les Chiefs comme ça, là. Tu sais, je comprends, Jean, toi, quand tu parles de on s'est laissé prendre au piège du mirage, mais
Puis c'est
il y avait quoi croire en eux, parce que malgré les apparences, les Chiefs ont jamais été dominés comme ça. C'est la première fois depuis que Patrick Mahomes est dans la NFL que les Chiefs perdent par plus d'un touché. Tu sais, c'est pas rien.
C'est incroyable.
Là. On pouvait pas s'attendre à un dénouement comme ça. Donc, moi, je m'en veux aussi parce que on en avait parlé, on a passé des minutes et des minutes dans le dernier show de la zone payante à parler des lacunes évidentes sur la ligne offensive des Chiefs en raison des multiples blessures, des gars qui étaient pas dans leur bonne chaise. Tu sais, je regarde, là, t'es rendu avec Mike Remmers comme bloqueur à gauche, Andrew Wiley comme bloqueur à droite, c'est un garde normalement. Tu sais, c'est tout le monde était dans la mauvaise chaise, donc ça, on se doutait que ça serait un problème. C'est pas comme si on avait dit « Ouais, non, ils vont être corrects », c'est oui, mais Mahomes est là, il va probablement faire quelques miracles, puis ça reste un impondérable important dans un match comme celui-là. Mais là, la pression était tout simplement impossible à contrer. Les Chiefs qui ont jamais trouvé non plus de recette pour s'ajuster face aux fameux « two high safeties », les deux safeties, les deux maraudeurs en profondeur déployés par les Buccaneers,
dont un qui s'occupait de Tyreek Hill en permanence.
Ben, ça a cassé le rythme. Là. Ils ont été incapables de s'ajuster. Moi, c'est ça que je déplore un peu. J'aurais pensé que les Chiefs auraient été capables de se revirer sur un 10-10 au dernier moment.
Mais ils ont essayé. À un moment donné, ils ont mis Tyreek Hill dans le champ arrière à essayer de faire des jeux derrière la ligne de mêlée. Mais là encore, ça n'a pas fonctionné. Il n'a pas réussi à s'envoler.
Puis Sammy Watkins, qui n'a pas été un facteur du tout. Tu sais, je comprends que c'est pas un receveur dangereux, dominant comme Tyreek Hill, mais tu t'attends à ce qu'il fasse plus de jeux que ça. Rappelez-vous, au Super Bowl l'an passé, il avait été quand même un joueur important. Ça n'a pas été le cas du tout.
Mais donc, dans ce mirage-là, Steph, moi je pense qu'Andy Reid s'est laissé prendre aussi avec le mirage des Chiefs. Parce que c'était à lui de s'ajuster un petit peu. Puis il devait se douter un peu la stratégie des Bucs, puis il a pas fait grand-chose. Quand tu vois souvent deux maraudeurs vraiment profonds, ce qu'il faut que tu fasses, tu réinventes pas la roue, faut que tu cours le ballon. Quand ils ont couru le ballon un peu plus au début de la deuxième demi, ils ont eu du succès rapidement. Je dis pas qu'il aurait fallu qu'ils courent tout le match, parce que c'est pas ça, mais il aurait fallu qu'ils soient assurément un peu plus balancés. Puis une des façons de contrôler puis de protéger un petit peu ta ligne à l'attaque qui était en danger dans ce match-là, ça aurait été de courir le ballon. Il l'a fait 4 fois en première demi. Ils ont couru 4 fois le ballon en première demi. Ben, c'est nettement insuffisant, puis c'est un peu ce qui explique cette déconfiture-là. C'est pas le meilleur match d'Andy Reid en carrière, ça j'en suis absolument certain. Non,
c'est correct de le dire, honnêtement. Andy Reid, tu sais, on l'a louangé beaucoup là, par le passé. Il a été extraordinaire à plusieurs reprises, Andy Reid, pour cette équipe-là. Je pense que c'est correct aussi de dire que ça, c'était pas son meilleur match. Il n'y a pas eu d'ajustement. Moi, je me serais attendu, oui, à plus de courses, mais aussi, tu regardes la façon qu'il avait attaqué les Bills en finale de conférence. C'était une approche plus patiente. On prend ce qu'on a à prendre, verge par verge, on y va tranquillement, puis tu sais, on les assassine à petit feu. Ça n'a pas été le cas, là. On aurait dit qu'il fallait prendre des chances, mais je me serais attendu à plus de frappes rapides, là, des petites bubble screens, des trucs comme ça aux receveurs, parce que c'est clairement le temps qui manquait à Mahomes à chaque jeu, là, tu sais. Écoute, la stat la plus renversante, là, il y en a pas mal, là, mais quand tu dis qu'il a couru 5 terrains de football avant de tenter ses passes, là, 495 verges, écoute, ça n'a pas de bon sens. Là. Ça arrivait de partout à tous les jeux. Puis ça me fait rire, là, ceux qui disent Mahomes, c'est le gars qui est payé le plus cher dans la ligue. C'est à lui de trouver une solution. Écoute, à un moment donné, là, quand ça vient de partout comme ça, je trouve que
c'est juste. C'est sûr.
Puis Mahomes, même s'il est très, très bon, il a pas nécessairement l'expérience de Tom Brady. Il peut pas arriver dans le bureau à Andy Reid puis dire « on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça ». T'as peur, là. Andy Reid, il en a vu encore pas mal plus que lui dans sa carrière. Je pense que le plan de match se fait à deux, puis c'est correct. Puis avec Bienemy, évidemment, qui est le commentateur à l'attaque, ça doit discuter, mais Mahomes a un certain poids, mais il n'y a pas le poids de Tom Brady qui, avouons-le, a changé l'attaque aussi de Bruce Arians. C'est pas la vraie attaque de Bruce Arians. Puis ça, pour moi, il faut le féliciter, Bruce Arians, parce que dans un Dans une ligue où ce que les égos sont très élevés, sont très hauts, lui, il a accepté de mettre de l'eau dans son vin. Il a accepté de donner un peu plus de lousse à Tom Brady, qui a pris assurément contrôle des Bucks de Tampa Bay après leur bye week. Et après, ben écoute, ils ont jamais regardé derrière. Mais, ils ont bâti.
Écoute, je dirais que Arians n'a pas sacrifié sa philosophie non plus. Ça a été un heureux mariage, en fait.
Exact. Je suis d'accord. Il n'a pas tout laissé tomber, ça, je suis d'accord. Mais ça reste que c'est vraiment Tom Brady qui a pris contrôle de cette attaque-là. Puis c'est de la bonne façon que ça s'est fait, tout simplement. Moi, j'admire Bruce Arians qui, d'ailleurs, s'est réveillé le plus vieil entraîneur-chef de l'histoire de la NFL avec un Super Bowl. Tu sais, c'est admirable ce qu'il a fait. Puis tant mieux pour les Bucks.
OK, les gars, on va arrêter là-dessus. Ben, on va, durant notre match après la pause, continuer de parler du Super Bowl. Jean, entre autres, tu vas nous parler des stats un peu renversantes de ce 55e Super Bowl. Restez là.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la Pacan. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Here comes first down! Here comes first down, Red Cashin.
De retour à la zone payante pour notre match qui commence. Premier essai avec Jean Carrier. Jean, les statistiques du Super Bowl, c'est souvent ce qui nous intéresse après le match, de voir tout ce qui s'est des fois mangé, des fois ce qui a été écouté à la télé. Mais toi, parle-nous un peu des statistiques que tu as lues sur le match qui pourraient nous surprendre.
Sur le terrain, écoute, c'est plusieurs statistiques. Une qui m'a vraiment surprise, les gars, c'est celle-là. Tom Brady a fini avec son plus haut rating de carrière, 125.8, le plus élevé de l'histoire du Super Bowl, mais de sa carrière. Donc, à chaque fois qu'il est allé au Super Bowl, c'est ce match-là qui a terminé avec son plus haut rating de carrière, 125.8. C'est quand même surprenant parce qu'il n'a pas été si fantastique que ça. Il a fait ce qu'il avait à faire, mais il a été quand même très précis. Trois passes de toucher, pas d'interception. Donc, Tom s'est réveillé avec un autre MVP, son cinquième en 10 tentatives. Ensuite, 43% des passes que Tom Brady a faites étaient en play action. Ça, c'est énorme. C'est à peu près une sur deux. Et les trois passes de toucher sont arrivées sur des feintes de jeu au sol et des passes. Donc, le play-action et l'installation de la course par les Bucks a été majeur, primordial dans cette rencontre-là. Autre statistique, Patrick Mahomes avait trouvé la zone début dans les 50... Ben, a vu son attaque compter au moins un toucher à tous ses départs dans la NFL. 53 départs, 53 fois les Chiefs ont marqué au moins un toucher offensif.
Incroyable.
Numéro 54, ça a été un petit peu plus difficile, limité à quelques placements par la part des Bucks. Qui avait vu venir ça, honnêtement? Ça, c'est phénoménal. Prochaine statistique, ben écoute, Steph en a parlé. Patrick Mahomes a couru littéralement pour sa vie, les gars. Là. Il a couru 497 verges dans la rencontre en raison de la pression abusive des Bucks sur lui.
Moi, donc, personnellement, là, c'est la stat qui m'a le plus renversé depuis longtemps. Ça. C'est 2 minutes, 497 verges. Ça n'a juste pas d'allure.
C'est à peu près 5 terrains de football.
Ça veut dire que quand c'était pas Barrett, c'était Pierre-Paul. Puis quand c'était pas Pierre-Paul, c'était Sue. Puis Devin White. Puis écoute, ils ont toutes eu leur mot à dire. Là, puis non seulement à pourchasser Mahomes, mais je trouve à bien le contenir, parce que Mahomes, si tu le fais courir vers les lignes de côté, il va être à son meilleur. Si tu le fais courir par en arrière, c'est là que c'est dangereux là, pour lui. Exact. Donc, ils ont vraiment, vraiment bien réussi à le contenir, parce que c'est beau de le faire courir pour sa vie, mais quand tu le fais courir du mauvais bord, ben là, c'est trois fois mieux.
Absolument. Prochaine statistique. D'ailleurs, Patrick Mahomes a été le carrière qui a subi le plus de pression de l'histoire de tous les Super Bowls. Donc, chapeau à la défensive des Bucks. Kansas City a utilisé, ça aussi, ça m'a fait un peu jeté à terre, a utilisé 92% du temps. Donc, ils ont lancé 52 fois, 48 fois, ils ont utilisé une protection avec seulement 5 joueurs de ligne à l'attaque. Donc, un five-man protection. C'est ce que ça veut dire, c'est que tu laissais ta ligne à l'attaque face à la ligne défensive sans aide. Donc, tu n'amènes pas un ailier rapproché, tu n'amènes pas de porteur de ballon additionnel pour aider. C'était ça.
Il leur manquait un genre d'Anthony Auclair.
Exact. Mais en tout cas, ça n'a pas été efficace. Il n'y a pas eu d'ajustement. Puis je comprends aussi un peu Andy Reid. Tu sais, Andy Reid, les Chiefs ont quand même 15 victoires, 2 défaites dans la saison. Puis ils ont joué de cette façon-là depuis 2 ans, puis ils perdent à peu près jamais, ils sont dans tous les matchs. Fait qu'il s'est peut-être dit, pourquoi tout changer? Il aurait peut-être dû mieux évaluer un petit peu ce qu'il y avait sous la main. Par contre, moi, je pense qu'il a manqué d'ajustement de la part des Chiefs dans ce match-là, mais je peux comprendre aussi sa façon de penser. Du côté des Bucks, une équipe qui aime blitzer en général, ils ont blitzé seulement 9,6% du temps. C'est le taux le plus bas d'une défensive de M. Bowles dans les 5 dernières saisons. Et dans les défensives, donc, il a utilisé ce qu'on appelle...
Il s'est aperçu vite qu'à 4, ça marchait.
Exactement. On fait une pression à 4. D'ailleurs, je t'avais dit que s'il y avait du succès avec une pression à 4, il garderait une pression à 4. C'est ce qu'il a fait.
C'est ce que j'avais prévu aussi.
Durant toute la rencontre. Ouais. L'autre point avec Bowles, c'est que... moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est...
Parce que Todd Bowles, on l'oublie, mais il a quand même été entraîneur-chef.
Entraîneur-chef avec les Jets.
C'est pas un nouveau. Ils sont très bien équipés en matière d'entraîneur.
Je pense que les deux équipes ont des excellents entraîneurs, mais je pense qu'on peut dire sans se tromper que les Bucks ont eu le meilleur sur les Chiefs au niveau du coaching. C'est même pas proche. Les 3 fois où ce que Bowles a le blitzé le moins souvent dans sa vie, c'est contre les attaques d'Andy Reid. Et c'est pour ça que tantôt j'ai dit qu'Andy Reid devait se douter un peu du plan de match des Bucks, puis il n'y a pas eu vraiment d'ajustement du côté des Chiefs. Donc, c'est une autre statistique. Patrick Mahomes a fini 10-22, 50 verges et 2 interceptions dans les passes qui sont à l'extérieur des numéros sur le terrain. Dans la semaine 12, quand les deux équipes s'étaient affrontées, il était 18-22, 308 verges, 3 touchés.
Merci à Tyreek Hill.
Merci. Ouais. C'est là aussi qu'on voit le génie d'un peu du plan de match défensif des Bucks. Ils ont dit, on va tout ce qui est proche des lignes de côté, il faut vraiment enlever ça. On va laisser un peu plus le centre du terrain. On va voir ce qui va arriver. On va laisser nos secondaires, qui sont très rapides, aussi couvrir du terrain. Puis écoute, ça a été magique tout simplement. Puis on a enlevé Tyreek Hill en doublant systématiquement et on a emprunté un peu la recette que Bill Belichick a utilisée face aux Chiefs.
Bon, mais merci Jean. C'est des statistiques de médiocrité un peu. Hein? C'est comme si le Super Bowl nous avait pas donné des chiffres incroyables en matière offensive, mais bon, c'était une surprise.
C'est des statistiques qui expliquent, je pense, très bien la rencontre.
Ouais,
puis qu'est-ce qui est arrivé, puis le fait qu'ils ont utilisé 2 safety très profondément à peu près tout le match, tout simplement.
OK, on y va avec notre deuxième essai. Steph, au milieu de la nuit, tu as parlé à un gars de la Beauce qui était heureux, Anthony Auclair. Parle-nous un peu de la discussion que tu as eue avec lui, puis raconte-nous un peu sa journée dans la NFL, puis qu'est-ce qui l'attend, là, lui, finit son contrat cette année.
Ouais, je vous dirais que pour commencer sur la discussion, les gars, ça a été, comme on dit, bref mais intense. Écoute, moi, j'avais tous mes textes à livrer, là, un petit peu passé minuit, j'avais terminé, puis j'espérais un appel d'Auclair, j'étais passé par les relationnistes des Buccaneers. J'avais pas de retour. À un moment donné, je me suis dit, je vais le texter directement. Donc, j'envoie un texto. Je me dis, il me rappellera probablement pas. Il doit être occupé. Il doit avoir quelques consommations à la main. Ben, en tout cas, c'est ce que je présumais. Là. Je sais pas là, pour vous ce que vous auriez fait, là, mais je me suis mis à sa place un petit peu.
Assurément.
Fait que, donc, c'est ça. Je me dis, je vais attendre, disons, jusqu'à 1h30 environ, puis après ça, ça va être dodo. Le lit m'appelle. Puis vers 1h10, Anthony m'appelle. Ben, là, j'aurais aimé, je m'en veux de pas avoir enregistré ça pour vous faire écouter dans le show, les gars, mais tu sais, c'est arrivé sur le fly à 1h10. Tout le monde dormait dans la maison, mais là, moi, fallait que je crie pour qu'ils me comprennent. Fallait qu'ils crient pour que je le comprenne. C'était le party, là. Je peux pas vous décrire à quel point il y avait du bruit. On essayait de se comprendre. La conversation a duré 2 minutes quelques, mais tu sais, fini par me glisser. On est champion du monde, mon Steph! Puis il criait, il était complètement dans une autre planète. T'sais, c'était beau à voir. Il était content, il avait son frère Adam. On le sait qu'il a joué demi-défensif avec le Rouge et Or aussi. Ils avaient gagné une Coupe Vanier ensemble. Là, ils se retrouvent ensemble à Tampa parce que c'est un contexte particulier. Les gars, on le sait, avec la COVID, c'est pas toute la famille qui a pu faire le voyage. Le père d'Anthony, là, qui a des problèmes de santé quand même, qui l'empêchait d'aller là-bas. Sa mère est enseignante. C'était pas évident non plus de s'absenter là pour une longue période quand on inclut la période de quarantaine au retour. Donc, il s'est retrouvé avec son frère et un ami d'enfance à festoyer après le match. C'était de toute beauté. C'est un gars qui est très heureux. Tu sais, Anthony, il y en a des mauvaises langues qui vont dire « Il a même pas joué. » Ouais, il a pas joué, mais il a été de l'alignement régulier toute l'année. Il a joué 8 matchs cette saison. Il est de tous les entraînements. Il joue son rôle à sa manière. C'est un gars qui était très, très fier de ce qu'il vient d'accomplir. Là, écoute, un Québécois qui gagne le Super Bowl pour une deuxième année de suite après Laurent Duvernay-Tardif l'an passé.
Et des Québécois qui ont fait leur football universitaire au Québec.
Aussi. Oui, exact. Tu sais, c'est ça. C'est le premier Rouge et Or, d'ailleurs, qui gagne le Super Bowl. Donc, tout le monde est content pour lui. Lui était très heureux. Il jubilait vraiment. Là. Donc, ça a été une courte conversation, mais il disait, écoute, en gros, on a attaqué les Chiefs avec un gros, gros plan de match. Tout le monde a fait son travail. Puis, pour ce qui est de la suite des choses, pour lui, on le sait, Anthony, c'est la fin de son contrat. Il avait son contrat de base de recrue, mais il a prolongé son association avec les Buccaneers l'hiver passé d'une autre saison. Puis maintenant, il devient agent libre. Là, écoute, à la lumière des dernières semaines, il n'a pas été en uniforme pour la durée des séries. Il y a lieu de croire que peut-être son temps à Tampa est fini. On ne sait pas. Là, c'est dur de se prononcer avec certitude pour l'instant. Mais quand même, écoute, peut-être que l'équipe pourrait passer à autre chose. Mais je parlais à son agent, Sacha Gavamy, la semaine avant le Super Bowl. Lui, ce qu'il me disait, écoute, vous allez me dire les gars qui prêchent pour sa paroisse, puis je le comprends, là. Mais un ailier rapproché spécialisé au bloc comme Anthony Auclair avec un gabarit de quoi 6 pieds 5, 260 livres.
Ah, c'est un gros bonhomme.
Ça court pas les rues, là. T'sais, c'est pas comme si tu te revires demain matin et t'en trouves un autre, là. Puis il a fait ses preuves, Anthony Auclair. Il a joué 40 matchs dans la NFL. Il a été longtemps louangé par les Buccaneers comme le meilleur bloqueur de l'équipe à sa position. C'est un gars qui va se trouver du travail, là, selon toute logique. Il y a des équipes qui recherchent ça, là, des ailiers rapprochés qui font le sale boulot comme lui, il est capable de le faire. C'est peut-être jamais le gars qui va pogner 40-50 passes là, comme certains pourraient l'espérer. C'est correct, là, lui, il veut sa chance pour pogner des ballons. Là. Comme tout le monde, tu veux réaliser des jeux spectaculaires. Mais si son rôle, c'est d'être bloqueur puis de le faire bien, au mieux de ses capacités, il peut durer plusieurs saisons comme ça dans la NFL. Maintenant, où il va aboutir? Est-ce que Tampa va décider de le ramener? Peut-être. Est-ce que d'autres équipes vont lui faire de l'œil? J'en suis convaincu. C'est pas la fin d'Anthony Auclair, là, à mes yeux, en tout cas dans la NFL. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'on va le voir rebondir, là, que ce soit à Tampa ou ailleurs.
Écoute, il y a une bague, il va avoir sa journée de trophée.
Écoute, c'est seulement le deuxième Québécois de l'histoire là, qui a une bague du Super Bowl. C'est vraiment pas... Il y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter. C'est la fierté de Notre-Dame-des-Pins. Le village, honnêtement, il devait être en liesse après la victoire des Bucks.
La seule chose qui est de valeur, Jean, par rapport à ça, imagines-tu le party qu'il y aurait eu en Beauce?
Ah, ça aurait été épique, honnêtement. Je trouve ça plate un petit peu.
C'est une année vraiment bizarre, pareil. Là. C'est de valeur tout ce qui se passe pour ça. Là. Puis pour bien d'autres raisons, évidemment, plus importantes que ça. Là. Mais pour ce qui est du football comme tel, c'est spécial, pareil, qu'il se retrouve au Super Bowl. Pas la moitié de sa famille qui est là. Le village, comme tu dis, c'était les bons termes. Le village qui aurait été en liesse, là, ben, tu sais, c'est tranquille. On a mis une pancarte.
On va faire ma télé à 11h. Puis...
Tu sais, tout le monde va se coucher couvre-feu, là.
Ben, au moins, ils se sont couchés avec le sourire. C'est au moins ça.
Puis juste une distinction, parce que il y a des gens, moi, qui c'est arrivé que je me suis fait poser la question par email ou Twitter ou etc. Est-ce qu'il est sur l'équipe de réserve, Anthony? Non, il n'est pas sur l'équipe de réserve. Il est sur l'alignement régulier de 53 joueurs. C'est juste exact. Que jour de match, tu prends les 53 joueurs de ton alignement régulier, puis il y en a 7 que tu ne mets pas en uniforme. Donc, il y en a 46 qui sont habillés le jour de match. C'est les règles de la NFL. C'est pas une règle des Buccaneers comme telle. Puis, Anthony Auclair, dans les dernières semaines, il a été dans les joueurs qui ont été appelés inactifs lors des jours de match en série. Mais comme je le disais, il y a la question aussi d'une blessure. Il s'est blessé à la jambe en début de saison. Puis son entraîneur des ailiers rapprochés lors des séances médias cette semaine, ça, j'ai hâte de le revérifier avec Anthony dans une conversation qui va durer plus que 2 minutes, qui est pas dans un party, là. Est-ce qu'il était encore en train de se remettre de cette blessure-là? Parce que son entraîneur a laissé entendre que c'était une blessure qui s'étire, qui est dure à guérir, puis qui l'a pas nécessairement aidé. Donc ça, c'est à vérifier avec lui. Je sais qu'il va donner un appel conférence aujourd'hui, un peu après l'enregistrement de notre show, où il va certainement donner des éclaircissements par rapport à ça. C'est une question là que je vais
essayer. Ouais, c'est le genre de bruit que tu veux pas qu'il se répande quand tu tombes joueur autonome non plus, là.
Non, c'est ça, tu sais, c'est sûr que tu veux montrer que tu es en santé, mais en même temps, il y a du temps là, pour se remettre en masse là, pour attaquer une réhabilitation là, vraiment plus solide que
ce qu'on a. À Tampa Bay, on dit que c'est l'équipe avec le plus de profondeur aussi au poste d'ailier. C'est pas pour rien. Là,
ben, que la venue de Gronk aussi lui a fait très mal. T'sais, Gronk aussi, il est capable, non seulement il est capable, c'est un excellent bloqueur. Donc, de cette façon-là, c'est sûr que ça y a enlevé du temps de jeu. C'est évident. Donc, moi, je suis un peu comme Stéphane. Je suis pas mal certain qu'Anthony va se trouver du boulot. Sa carrière n'est pas terminée dans la NFL. C'est un gars qui est très utile. Est-ce que c'est une vedette? Ben non, c'est sûr que non. Mais c'est un joueur qui est très utile pour une équipe de la NFL. Je suis convaincu qu'il lui reste quelques saisons. Du moins, j'en suis pas mal persuadé.
Puis, personnellement,
je suis content aussi parce que c'est vraiment un produit. Tu sais, je veux pas être méprisant là, envers Laurent Duvernay-Tardy, c'est exceptionnel, mais le LDT, il a pas joué beaucoup dans le football québécois. Tu sais, il a joué au collégial, puis il a joué universitaire, il a commencé tard. Dans le cas d'Anthony, c'est vraiment un produit du football québécois. Il a joué à Notre-Dame-de-la-Trinité au primaire. Après ça, au secondaire, avec les Dragons de la Beauce à Saint-Georges. Ensuite, collégial à Lennoxville. Ensuite, Université Laval. C'est vraiment, il a fait tous les niveaux du côté d'Anthony. Puis on se doit d'être fiers de ça, tout simplement.
J'allais dire, juste avant de terminer, écoute, c'est peut-être hasardeux, mais c'est pas grave. Juste pour le fun, puisqu'on parle de lui, puis qu'on sait pas quand est-ce qu'on va se reparler, les gars. C'est un gars que je verrais bien, puis ça vient pas de personne, là. C'est juste une impression personnelle. Les Steelers ont dit beaucoup qu'ils allaient se recentrer sur le jeu au sol, qu'ils allaient retrouver leur bonne vieille identité, qu'ils sont un peu trop égarés de leur personnalité dernièrement. Ils vont avoir besoin de gars comme Anthony Auclair, là, s'ils veulent vraiment s'enligner dans cette direction-là, si c'est sincère leur espèce de volonté de faire ça. Faudrait pas s'étonner qu'un gars comme Anthony Auclair puisse les intéresser. Donc, je le dis comme ça, situation à surveiller. Il peut aussi bien revenir à Tampa, là, on le sait pas. Mais quand même, ça pourrait devenir un scénario intéressant.
On lui souhaite. En tout cas, vraiment un bon gars en plus. Là, il a toutes les raisons d'être fier. OK, on y va avec un troisième essai un peu tourné vers la prochaine saison, les gars. Le way too early... prédiction pour le Super Bowl. Je ne vous demande pas de prédire le Super Bowl, évidemment, de l'an prochain, mais je veux juste regarder avec vous les équipes qu'on voit comme les meilleures. Là. Les preneurs au livre voient les Chiefs et les Packers encore comme favoris l'an prochain pour rafler les grands honneurs. On voit que les Bucks n'ont pas réussi à les convaincre et les Ravens aussi, qui sont toujours proches de la tête. Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision de nos preneurs au livre de Vegas?
Ben moi, j'étais un peu surpris que les Bucks soient pas plus près du sommet. T'sais, ils viennent de remporter les grands honneurs. Ils ont une défensive qui, à part Shaq Barrett, s'il re-signe, très intimidante à nouveau. Puis écoute, quand ton homme, c'est Tom Brady, qui monte aucun signe de ralentissement, ben je vois pas pourquoi les Bucks seraient pas dans la conversation là, l'an prochain. Les Chiefs, pour moi, ils sont là. Les Bills, les Rams, puis moi, je pense qu'il y a des équipes qui va falloir attendre un petit peu le dénouement au poste de carrière, mais je pense que les Colts puis les Niners, s'ils se trouvent une option intéressante au poste de carrière, ils vont être de retour dans la conversation également. Là.
Ouais, les Buccaneers, la seule question, en fait, c'est leurs agents libres, tu sais. Ça se pourrait qu'ils perdent Chris Godwin. Bon, il y a Gronk qui est agent libre, mais on sait qu'il va revenir, ça, c'est pratiquement sûr. Tu sais, tu parlais de Shaq Barrett qui est agent libre. Il y a Lavonte David aussi. Il y a Ndamukong Suh. Tu sais, il y a quelques contrats quand même à régler, mais ils ont l'espace. On pense que c'est une équipe qui est prêt à gorge avec toutes les vedettes, là. Mais ils ont quand même là au-dessus de 28 millions disponibles, les Buccaneers, sous le cap projeté de 180 millions. Donc,
c'est quand même énorme.
Qui va pouvoir un peu là, manier les dollars. Puis il y a des joueurs là-dedans qui vont se dire, écoute, le plafond salarial baisse l'an prochain. J'aurais peut-être pas le contrat que j'aurais droit à n'importe quelle autre année dans un contexte normal où la NFL monte sans cesse son plafond salarial. Il y en a peut-être là-dedans qui vont se dire, écoute, tant qu'à pas avoir le contrat que j'espérais, aussi bien rester à Tampa au sein d'une équipe championne. Ça peut jouer en leur faveur. Donc, oui, ils doivent être considérés là, parmi les équipes de tête. Les Chiefs, ben c'est pas surprenant. Faudra voir s'il y a un effet fatigue là, quand ça fait 2 années de suite que ton parcours t'amène jusqu'au Super Bowl. Est-ce que l'année d'après, il peut avoir un certain signe d'essoufflement? Ça va être à surveiller. Les Packers, je suis pas surpris qu'ils soient dans les équipes de tête. Moi, je suis d'accord avec Jean. San Francisco, c'est une équipe qu'on va avoir tendance à oublier. S'ils règlent leur questionnement au poste de corps arrière, ils reviennent avec une défensive redoutable, des partants de qualité qui étaient blessés cette année qui vont être de retour, une équipe qui pourrait vraiment causer des surprises. Ils jouent dans une division forte avec les Rams, les Seahawks et les Cardinals, donc
c'est très fort comme division là.
C'est hallucinant, c'est toujours difficile de sortir du lot, mais honnêtement, tout est possible.
OK, puis j'aimerais vous entendre sur l'équipe de Washington qui est qui est dans le fond des prévisions, dans le fond du classement des prévisions, derrière les Giants, derrière les Eagles, derrière les Cowboys, alors que c'est eux qui viennent de remporter la division. Est-ce que vous trouvez que les preneurs au livre sont un peu naïfs par rapport à l'équipe que Ron Rivera pourrait construire l'an prochain?
Ben eux aussi. Tout dépend encore de la position de carrière. C'est, il n'y a rien de fait.
Mais même sans une stabilité comme corps arrière cette année, ils ont réussi à faire une saison pas pire, entre guillemets.
Oui, parce que la position de carrière ailleurs dans la division a été horrible. Mais ça sera pas nécessairement le cas l'an prochain. Je m'attends à ce que Dak revienne avec les Cowboys. Il va avoir assurément plus d'adversité dans cette division-là. Je peux pas croire qu'ils vont rester aussi mauvais dans la NFC East aussi longtemps. Je pense que ça va être un peu mieux. Ce ne sera pas exceptionnel, mais il va avoir plus d'adversité. Ils ont une défensive élite, ça on le sait. Elle est très jeune, d'ailleurs, cette défensive-là, donc elle va revenir. Maintenant, il faut qu'ils règlent leurs problèmes à la position de carrière. C'est la position la plus importante du terrain, les gars, là, ça n'a pas changé. Là.
OK, puis les cinq.
À part les fronts, après, c'est la position la plus importante. C'est en premier carrière, après ça, ta ligne offensive.
Puis tu vois les 5 pires équipes selon Vegas pour l'an prochain. On parle des Jets, des Jaguars, des Lions, des Broncos et des Bengals. Il y a des équipes là-dedans que la question du corps arrière est réglée.
Moi, je ne mettrais pas les Broncos là-dedans, personnellement.
Non, moi non plus.
Là, je dis pas qu'ils vont gagner le Super Bowl, là, loin de là, mais dans les pires équipes, écoute, ils ont d'excellents receveurs de passe. Tu as Courtland Sutton qui va revenir. Il y a une défensive qui tient son bout. Un bon jeu au sol avec deux très bons porteurs de ballon. Une bonne ligne offensive. Tout ce qui manque encore là, c'est le corps arrière. Est-ce que Drew Lock va être l'homme de la question? Est-ce qu'on va lui laisser plus de temps? Ou est-ce qu'on va aller chercher un vétéran là, pour essayer d'accélérer le processus? Ça reste à voir, mais pour moi, c'est pas une des pires équipes de la Ligue.
Là. À part les Broncos, par contre, je suis quand même d'accord avec la liste qui est là.
Ouais.
Puis quand tu regardes la liste, c'est toutes des équipes où que la position de ligne en attaque est problématique. Quand je dis que c'est une position qui est extrêmement importante dans la NFL, ben, on le voit dans ce genre de compilation d'équipes horribles.
OK, ben on va laisser toutes ces équipes s'améliorer avec les joueurs autonomes.
Il y a un petit point, Jean-Nic, que
ouais,
je voulais dire sur le Super Bowl qu'on n'a peut-être pas parlé, mais c'est Antonio Brown. Antonio Brown, il est maintenant champion du Super Bowl. Il a pris son trou. Il a accepté le rôle qu'on lui a donné. Il a jamais... cette année, on n'a pas entendu parler zéro. Là. T'sais, il a été A1++ pour les Bucks. Puis honnêtement, faut lever notre chapeau. Puis honnêtement, je lève mon chapeau également à Tom Brady parce que j'ai l'impression que ça serait peut-être pas arrivé avec n'importe quelle carrière, mais c'est un peu la rédemption d'Antonio Brown qu'on a vu avec les Bucks. Ça passait un peu sous silence.
Ouais, mais ce qu'elle mérite là, c'est pas comme
ça,
si
ça c'est pas à moi de décider de ça.
Non, je sais. Mais
ça c'est une autre affaire. Mais sur le terrain. Honnêtement, il a toujours travaillé très, très fort. C'est jamais été son
éthique. Oui, mais est-ce qu'il avait sa place à être sur le terrain? T'sais, il y a ça aussi. Là,
ça, je comprends très bien ton point, mais c'est quand même une belle histoire, selon moi.
OK, ben écoute, on s'en parlera l'an prochain, parce que je sais pas, lui, encore quelques mois à passer à être sage, là, ce qu'il va réussir.
Ouais, c'est peut-être même là son plus gros défi, c'est là, ça, la saison morte.
Surtout que là, il est champion, peut-être que dans sa personnalité, c'est pas la modestie qu'il
a. Mais il a l'air beaucoup plus calme qu'avant, puis Steph, tu peux me corriger, parce que t'as quand même vu son point de presse, j'imagine.
Ouais, ben c'est le seul point, moi, qui m'a un peu vraiment chicoté dans son cas. C'est qu'il a joué un peu à la victime dans son point de presse. Là.
Okay.
J'ai vaincu de l'adversité, puis j'ai eu un parcours parsemé d'obstacles, puis les gens ne croient pas en moi, puis les gens me dénigrent, puis j'ai combattu le mépris et la haine.
Ouais.
Il y a quand même des blessures là-dedans qui ont été auto-imposées, disons-le comme ça. Là. Il s'est auto-mutilé pas mal, Antonio Brown. Là. Il a été capable de faire le travail par lui-même. Donc, j'ai pas aimé ce ton-là. C'est vrai qu'il a fait profil bas. Il a pas fait de vagues, ça, honnêtement. On va lui donner, là. Mais c'est le ton, moi, que j'ai pas aimé, là, où tout le monde est contre moi, puis, tu sais, écoute, Antonio Brown... Il s'est quand même sorti des Steelers, il s'est sorti des Raiders. Il a été spectaculairement dur à suivre, Antonio Brown, dans les dernières années, disons-le comme ça.
Il peut remercier son grand frère Tom Brady de l'avoir... franchement, là, il n'y a personne ça, d'autre Brady, de la NFL qui aurait pu le parrainer autant. Là.
Quand on parle de l'influence de Brady là, sur une équipe, non seulement il a amené les Bucks à un autre niveau par son éthique de travail contagieuse et son leadership, mais regarde les gars qui ont inscrit des touchés dans ce match-là. Gronk serait pas à la Tampa sans Brady.
Non.
Antonio Brown, même chose. Puis l'autre qui a fait un touché, Leonard Fournette, c'est Brady qui a poussé Bruce Arians à dire, écoute, ce gars-là, les Jaguars viennent de le libérer. On devrait prendre une chance. Arians a dit, OK, d'accord, Tom. C'est les quatre gars qui ont inscrit des touchés. C'est les quatre gars que... les trois gars, c'est-à-dire que Tom Brady a réussi à amener en ville. Pas sûr que si c'est Jameis Winston qui est là, il y a autant d'influence pour amener ces joueurs-là à bord.
D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi c'était pas été Leonard Fournette sur le 4 et les buts au lieu d'Aaron Jones. Mais écoute, ils ont gagné. Fait que félicitations aux Bucks.
Après la pause, les gars, on continue notre match au quatrième essai, puis on va parler un peu des honneurs individuels qui ont été remis cette semaine dans la NFL. Pas de surprise, mais peut-être une. On en parle après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
De retour à la zone payante, c'est le quatrième essai qui nous permet de toucher un peu des éléments d'actualité qui se déroulent en ce moment dans la NFL. C'est un petit peu plus tranquille, mais quand même, là, la remise des prix individuels intéresse toujours nos auditeurs. Puis nous aussi, on en a parlé à plusieurs reprises pendant la saison. Alors, c'est le temps de voir si on était bien aligné. Je pense que le retour de l'année et le joueur par excellence de l'année, c'est pas des surprises avec Alex Smith et Aaron Rodgers. Mais est-ce que vous avez des joueurs que vous voyez pas là et qui ont été élus?
Écoute, je pense que nos prédictions étaient pas mal sur la coche, comme on dit. Il y en a une seule, moi, je pense qu'il est un petit peu... On peut poser des points d'interrogation, mais pas tant que ça. Tu sais, c'est le joueur défensif de l'année. C'est Aaron Donald qui l'a eu. Nous, je pense que moi et Steph, on avait... TJ Watt, c'était notre choix. Moi, je me mets juste dans la peau de TJ Watt présentement, puis je me demande, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour remporter ce trophée-là?
Ouais, c'est ça.
C'est plus ça, parce que oui, Aaron Donald l'a gagné. Il le mérite, c'est un joueur dominant. Mais qu'est-ce que Watt peut faire de plus? Il a dominé toutes les catégories cette année dans la NFL.
Ouais, c'est ça.
Moi, c'est la seule question qui me vient vraiment un peu en tête. L'autre point que moi, je commence aussi qui est Aaron Rodgers méritait son trophée, j'ai pas de problème avec ça, mais il y a un parallèle à faire avec Aaron Rodgers puis Brett Favre. C'est ça qui moi qui est rendu au même nombre de MVP. Ils ont exactement le même genre de carrière. Oui, c'est pas le même genre de carrière, mais au niveau de la carrière, écoute, ils ont gagné un Super Bowl très tôt avec les Packers. Et après,
on s'attendait à une vague. Là.
Ben oui, c'est le désert. Ils ont aligné des trophées du MVP. C'est son troisième, tout comme Brett Favre. Il n'y a pas beaucoup de personnes là, dans la NFL qui ont ça. Au moins trois trophées du MVP. Il y a Rodgers, il y a Favre, il y a Manning, puis il y a Tom Brady. C'est tout. Il n'y en a pas d'autres. Donc, c'est ça. Puis, est-ce que Aaron Rodgers va gagner un autre Super Bowl? J'ai des doutes. Puis, est-ce qu'il va finir sa carrière à Green Bay? Ça aussi, j'ai des doutes. Fait que pour moi, il y a un parallèle à faire avec la carrière de Brett Favre.
Puis est-ce qu'il va tenir le suspense sur sa retraite?
Ah, j'espère que non.
OK, puis l'entraîneur de l'année, il me semble qu'il y avait plusieurs candidats. Est-ce que Kevin Stefanski, c'était pas un choix évident?
Non, mais pour moi, en tout cas, moi, c'était mon choix personnellement. Tu sais, je trouvais qu'il méritait, ne serait-ce que pour le fait d'amener les Browns en série, enfin. En plus, il gagne un match de série, quoique là... Le parcours en série n'importe plus sur le choix des honneurs individuels, c'est des honneurs de saison. Mais sincèrement, il a accompli du boulot extraordinaire avec cette équipe-là. Mais il y avait de très bons candidats cette année. Tu sais, Sean McDermott avec les Bills qui a été phénoménal. Les Bills qui avaient un calendrier qui était vraiment pas commode. La force de leurs adversaires était impressionnante. Donc, il aurait pu être un candidat aussi méritant là, que Stephen.
Sean Payton. On l'oublie toujours, Sean Payton, mais...
Ouais, il y en a plusieurs. Tu sais, Rivera à Washington, Flores à Miami aurait
Flores,
été un bon choix.
Moi, Flores, c'était mon choix personnel, mais c'est sûr que la fin de saison était un petit peu plus difficile dans le cas des Dolphins.
Mais tu regardes ça, puis moi, je peux pas dire « Ah, Stefanski, c'est un choix douteux. » Tu sais, pas du tout. Là, moi, j'ai aucun problème avec cette nomination-là.
OK, mais bon, dans les choix, tu sais, on peut avoir des questionnements, mais il y a aucune controverse vraiment non plus.
Non.
Donc, joueur de l'année le plus utile, Aaron Rodgers. Le joueur offensif de l'année, Derrick Henry. Le joueur défensif de l'année, Aaron Donald. La recrue offensive de l'année, Justin Herbert. La recrue défensive de l'année, Chase Young. Le coach de l'année, on l'a dit, Kevin Stefanski. Et le retour de l'année, ben c'est Alex Smith. Là. C'était vraiment un choix évident. D'ailleurs, encore des documentaires qui sortent dernièrement sur son histoire. Franchement, là, Alex Smith, chapeau pour le retour. OK, allons-y avec les joueurs qui ont été élus au Temple de la renommée. Là aussi, pas vraiment de surprise. Là, peut-être gens qui ne voyaient pas Calvin Johnson quand on en a parlé dans la zone payante un peu plus tôt cette année, qui a été élu first ballot, comme on dit.
Je le voyais au temps de la renommée. Le seul questionnement que tu peux avoir, c'est qu'il a seulement joué 9 saisons. 9 saisons à un niveau incroyable, mais c'est pas très long dans l'univers de la NFL. Non,
il a genre 36 ans, il pourrait jouer encore. Là.
Oui, écoute, puis je suis convaincu qu'il serait très bon présentement sur le terrain.
C'est incroyable.
C'est ça qu'il faut se dire, mais...
Un autre joueur des Lions qui s'est retiré...
en pleine gloire.
Avec Barry Sanders.
Pas en pleine gloire, parce qu'au niveau des exploits collectifs, c'est toujours plus difficile avec les Lions. Mais c'est vrai que sa carrière fait étrangement penser à celle de Barry Sanders. Mais ceci étant dit, sur le terrain, il a été exceptionnel, Calvin Johnson. Puis c'est pas, pour moi, controversé non plus qu'il a été choisi. Dans le cas de Woodson et Manning, c'était des choix absolument évidents.
Écoute, Manning, je lisais l'autre jour le journaliste américain Peter King qui mentionnait à peu près la durée de chaque débat là, pour tous les candidats de l'ère moderne. On les débat un par un. C'est une affaire qui dure des heures et des heures et des heures, là, l'élection pour le Temple de la renommée. Puis Peyton Manning, semble-t-il que ça a duré quelque chose comme 47 secondes. Je trouve déjà ça long un peu, là. On aurait pu passer moins de temps sur Peyton Manning, puis même chose pour Charles Woodson. Pour moi, c'était les deux candidats qui rentraient là, sans même qu'on rouvre les bulletins. Là. C'est comme, OK, eux autres, go, allez-y. Là.
Ouais. Je suis 100% d'accord. Ouais,
c'est 5 joueurs qui ont été intronisés cette année, c'est bien ça?
Ben, c'est 5 de l'ère moderne, c'est-à-dire Manning, Woodson, Johnson, Alan Faneca, l'ancien joueur de ligne offensive, ouais, puis John Lynch, le maraudeur qui a brillé avec les Buccaneers et les Broncos. Là, après, Manning, Woodson, Johnson, tout le monde est à peu près d'accord. C'est Faneca puis Lynch, là, il y a toujours des débats. Quand tu es rendu au 4e, 5e, c'est pas que c'est pas des bons joueurs, mais tu as toujours, toujours, toujours des débats. Est-ce que ça aurait dû être lui ou...
Zach Thomas.
Ouais, tu sais, il y en a un paquet là qui sont là puis qui sont bons puis qui vont être là pendant des années puis qu'on va discuter leur candidature à chaque année. Tu sais, je pense à un gars comme le bloqueur Tony Boschelli, l'ancien des Jaguars, qui a eu une carrière très courte à cause des blessures, mais qui a été probablement le meilleur bloqueur de son époque là, disons au milieu des années 90 quand les Jaguars sont arrivés dans la NFL. Ça a été un rock, mais à cause de la carrière, il y a un débat. Donc, il y a toujours des débats par rapport à ces joueurs-là. Mais écoute...
Dans les joueurs qui ont été ignorés, les finalistes, t'as Zach Thomas, t'as Reggie Wayne, pour moi, qui est très solide, Richard Seymour.
Ouais, lui, il faut qu'il y aille.
Ouais, ça, je pense que ce n'est qu'une question de temps. Leroy Butler, donc c'est tous des joueurs qui ont été...
Il n'y avait pas Ainsworth aussi?
T'as raison.
Il n'était pas finaliste, là, c'est ça.
C'est ça, c'était pas dans les finalistes.
OK, ben on va regarder ça. C'est quand la cérémonie d'intronisation? C'est un peu avant le draft, hein? C'est ça, me semble, c'est à Canton. Non,
c'est au mois d'août, là. C'est d'habitude, d'août, c'est le premier match de pré-saison.
C'est le premier match pré-saison.
L'an passé, ça n'avait pas eu lieu là, dans le contexte de la COVID, donc je ne sais pas ce qui va se produire cette année. Là. On verra rendu là, mais habituellement, c'est début août.
OK, ben on y est un peu, les gars. Le prochain sujet que j'aimerais qu'on aborde, c'est quelles seront les choses à surveiller dans les prochaines semaines. Là, la saison morte débute dans la NFL. Là. La vraie saison, je pense qu'elle part officiellement à la mi-mars. Mais qu'est-ce qu'on va devoir surveiller à partir de maintenant, ceux et celles qui veulent continuer à suivre la NFL?
Ah ben la valse des corps arrière, ça va être la première chose parce que habituellement, bon an, mal an, il y a quelques changements. Là. On parle de quoi? 3-4 changements au niveau des corps arrière. Là, cette année, là, ça pourrait être près de la moitié des équipes où ça bouge. Quoique des fois, on a des grandes attentes, puis finalement, il ne se passe pas tant de choses que ça. Là. Mais là, tu vois, au moment où on enregistre, on dit que les Eagles seraient probablement sur le point. Un échange serait imminent concernant Carson Wentz. On parle des Colts ou des Bears.
Non, mais t'as vu ce qu'ils seraient prêts à donner? Ça, en tout cas,
ouais. Les Colts, j'ai l'impression qu'ils croient en Wentz parce que c'est Frank Reich qui l'avait développé. Donc là, il y a une connexion qui se fait là, si on veut. Est-ce qu'il va se retrouver à Chicago? Là, c'est DeFilippo qui a été promu comme coordonnateur offensif. C'est lui qui était son coach des corps arrière lorsqu'il était à Philadelphie à ses meilleurs moments, Carson Wentz. Donc, il va avoir un choix là, qui devrait se faire à ce niveau-là. Ben, c'est pas un choix pour Wentz, là, mais un choix pour les Eagles. Donc ça, c'est la première situation à surveiller. La saga de Sean Watson, évidemment. Puis les autres corps arrière, est-ce qu'ils vont changer de chaise? Là, on pense à Jimmy Garoppolo. Qu'est-ce que les Patriots vont faire pour régler leurs problèmes au niveau des corps arrière? Puis il y a beaucoup de ces postes à combler-là qui vont se faire par le biais du repêchage aussi, parce que c'est une grosse année de corps arrière. Là. On parle de potentiellement quoi? Peut-être 5 candidats qui pourraient sortir en première ronde. Donc, une autre grosse année à ce niveau-là.
C'est une année, je dirais, où ce que la saison morte pourrait ressembler un peu à une saison morte de la NBA, où ce que ouais. tout le monde change d'équipe dans des positions clés. C'est un peu ce que ça me fait penser. Puis on va suivre ça là, tout simplement avec intérêt. Mais il n'y a aucun doute que, pour moi, la plus grosse histoire, c'est Deshaun Watson. Qu'est-ce ouais. qui va arriver avec Deshaun Watson? Ça va être un feuilleton.
Là, j'ai lu qu'il avait congédié son entraîneur personnel à Houston dans les derniers jours, un peu avant le Super Bowl. Tu sais, c'est comme si, d'un côté, ils disent qu'ils veulent le garder, mais ils mettent dehors tous ses amis.
Ouais, mais comme je te dis, le feuilleton est loin d'être terminé. Je pense que ça va être quelque chose qu'on va suivre minimalement jusqu'au repêchage. Et selon moi, ça va durer bien après le repêchage. Je pense pas qu'il va être échangé au repêchage.
Il y avait toujours, à l'époque, un joueur qui était très convoité dans le marché des joueurs autonomes. Le joueur qu'on sait qui va faire sauter la banque. Là, cette année, avec le plafond qui n'augmente pas, en tout cas, au même rythme que d'habitude, y a-t-il un joueur qui risque de faire sauter la banque ou la période des joueurs autonomes va être différente cette année?
Ben, s'il y a un joueur qui a une chance de se ramasser plusieurs fois millionnaire, c'est Dak Prescott. Est-ce que les Cowboys vont y aller encore avec l'approche du franchise tag? Est-ce qu'ils vont finalement lui donner un contrat à long terme? Est-ce qu'une équipe va tenter d'être hyper agressive pour tenter de ravir Prescott aux Cowboys? Ça, c'est une situation à surveiller. Puis l'autre, en défensive, je pense que celui qui s'est fait le plus d'argent, c'est avec son match de dimanche, Shaq Barrett. Lui, il pourrait décrocher le gros lot, à moins, comme je le disais tantôt, qu'il se dise, écoute, c'est peut-être pas l'année avec le plafond qui baisse pour aller chercher un gros contrat. Je préfère, dans ces contextes-là, rester à Tampa. Ça va être un choix personnel après ça. Mais il y a certainement des équipes, des clubs comme les Jaguars qui ont au-delà de 77 millions à dépenser sous le cap salarial. Les Colts pourraient être très agressifs aussi. Mais les Jets.
Et le contraire est vrai aussi, Stéphane. Il y a plusieurs équipes qui sont dans le trouble avec le plafond.
Pas à peu près.
Puis ça aussi, il faut surveiller ça de près. Je pense entre autres aux Steelers. Il y a 21 joueurs qui sont agents libres. Puis pas des pieds de céleri, le Bud Dupree, Villanueva, le joueur de ligne à l'attaque, Juju Smith-Schuster, James Conner. Donc, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces gars-là? Les Falcons aussi sont pris à la gorge. Julio Jones puis Matt Ryan, c'est 36% du plafond salarial des Falcons.
Incroyable.
C'est énorme.
Leur dernière passe de toucher.
Tu rajoutes Jarrett Mathews, Fowler et Jones. Écoute, on parle de 6 joueurs, 136 millions sur 175 millions
non, c'est pas beau.
Qui sont donnés à ces gars-là. Qu'est-ce que tu fais avec le reste?
Puis ils ont gagné 5 matchs.
Ouais.
Ou 6.
Donc, il y a des équipes qui vont travailler fort, qui vont être en mode solution. Les Eagles, les Saints aussi, ils ont du travail à faire vraiment là avec le cap salarial qui va descendre. Ça va être très difficile pour ces formations-là.
OK, puis là, on est en route vers le draft. Des fois, il y a toutes sortes d'activités ou d'événements qui nous mènent au repêchage. Est-ce que ça va avoir lieu cette année? Est-ce qu'il va y avoir les célèbres combines? Est-ce qu'on a des idées là-dessus ou des nouvelles?
Ben, le combine, il sera pas tenu sous sa forme traditionnelle. C'est-à-dire que d'habitude, c'est fin février, puis tout le monde, tout le gratin de la NFL est rassemblé à Indianapolis. Les agents, les dépisteurs, les directeurs généraux, les coachs, les jeunes espoirs. C'est incroyable le monde qu'il y a là. Puis c'est pour les tests physiques, les entrevues avec les joueurs, tous les tests médicaux aussi. Cette année, là, ce qu'on dit, c'est que le combine va être plus sous forme de tests médicaux au début avril à Indianapolis. mais que les entrevues vont se dérouler de manière principalement virtuelle. Le commissaire Roger Goodell, dans son point de presse là, sur l'état annuel dans le cadre du Super Bowl, a laissé entendre d'ailleurs que le virtuel est là pour un bon bout dans nos vies, là, au niveau de la saison morte dans la NFL. Donc, faut s'attendre à ça, là, des événements comme ça qui vont être différents. Est-ce que le repêchage va être encore virtuel cette année? Difficile à dire, là, mais on voit mal en ce moment comment ça peut se tenir dans l'état normal, là, comme on l'a vu dans les années passées, là. Donc, on risque d'être pris avec ça là, pour encore les prochains mois, je pense.
OK, bon, ben on va quand même, comme partisans, essayer de se trouver des choses à se mettre sous la dent. On va en avoir. Les entraîneurs, pas mal tous les entraîneurs, c'est les situations sont réglées. Il va y avoir peut-être des surprises pour des échanges en vue du repêchage. Merci les gars de nous avoir fait cette analyse-là. Je vais vous poser ma célèbre question, une facile cette semaine, la question quiz. Brady et Gronkowski sont devenus le duo le plus prolifique de l'histoire du Super Bowl avec 14 passes de toucher. Qui ont-ils surpassé?
C'est Jerry Rice et Montana.
Exact. Jerry Rice et Joe Montana, c'est vraiment la fin d'une époque. Hein? Gronkowski et Brady qui deviennent donc le duo le plus prolifique de l'histoire du Super Bowl.
Ce qui est surprenant, c'est que le duo, ce soit un ailier rapproché avec un carrière et non un receveur de passe.
C'est vrai. Incroyable.
NFL. Puis je tiens à dire que je suis content pour Tom Brady parce que c'est pas un gars qui avait beaucoup de records au Super Bowl.
Ben oui.
Donc tu sais, un de plus, tu sais, je trouve que ça regarnit un peu sa collection qui en manquait beaucoup.
Je peux pas savoir, les gars. Tu sais, la semaine passée, je vous ai posé la question pour un gars qui a eu Belichick, qui a eu Brady, qui a eu les Pats, pour qui je prends. Puis ça a été difficile quand même à regarder comme Super Bowl, ça pour moi, là, je vous dis les Brady haters, là. Ça a pas dû être un match facile.
Écoute, je vais t'en donner une autre stat si tu veux. Tom Brady a maintenant plus de Super Bowl que n'importe quelle franchise de la NFL.
Non, je sais. Ouais, il y a 7 Super Bowl, là. C'est incroyable.
Je suis pas sûr qu'on réalise pleinement l'époque qu'on vit là, par rapport à Tom Brady. T'sais, des fois, on lance tous ces chiffres-là. Mais je suis à peu près convaincu qu'on reverra pas ça de notre vivant. Là. Patrick Mahomes peut aller en chercher quelqu'un.
Le fait qu'il change d'équipe, qu'il gagne à sa première année, moi, ça, honnêtement, ça m'a jeté à terre cette saison. Ouais. Je m'attendais pas à ça du côté des Bucks. Puis il y en a plein qui ont essayé aussi là au fil des ans. Brett Favre va passer proche, Joe Montana va passer proche, mais ils l'ont pas fait. C'est difficile. Écoute,
Charles, ça me fait rire. Les gens disent, ouais, mais il a choisi son équipe, il est allé dans un club pacté. Ouais, OK. Mais ouais, le club pacté, il était 7-9 l'an passé. Le club pacté n'avait pas fait les séries depuis 2007. Il a fallu quand même que Tom Brady joue un grand rôle dans ce revirement-là spectaculaire.
Yeah, ben, il y a des gens aussi qui commencent à utiliser l'expression « quand la COVID va finir », ça commence à sonner comme « quand Tom Brady va prendre sa retraite ». Ça arrivera peut-être jamais.
Faut pas être pessimiste comme ça.
Mais non, je suis content. Moi, j'avais misé sur les Bucks, fait que je me suis dit, garde, au moins, même si j'ai eu Brady,
t'as gagné ton Super Bowl.
J'ai gagné mon Super Bowl. OK, on fait une pause, les gars, et la dernière chronique au bar après la pause, ça va vous permettre de vous exulter de ce Super Bowl en envoyant des gens en punition. Bougez pas. I got a hangover. C'est la chronique au bar dans la zone payante et c'est le moment de punir des gens qui méritent d'aller réfléchir un petit peu au bar avec un breuvage alcoolisé ou pas. Des fois, on est tellement sévère qu'on leur permet même pas de s'alcooliser la fraise. Est-ce que ce sera le cas cette semaine? Steph.
Moi, je vais y aller avec Britt Reid. Britt Reid, qui est l'entraîneur des secondeurs extérieurs des Chiefs, le fils d'Andy Reid. Puis, c'est pas une joke cette semaine. Des fois, on rit, puis on envoie des petites tapes ses doigts sympathiques, puis on s'amuse avec ça, parce que c'est un peu la vocation du bar quand même, de pas se prendre trop au sérieux. Dans ce cas-là, c'est pas drôle. Tu sais, il a été impliqué dans un accident de voiture. Il y a une petite fille de 5 ans actuellement là, qui est entre la vie et la mort à Kansas City. Ça s'est produit jeudi soir, là, quelques jours avant le Super Bowl. On n'a pas encore, au moment où on se parle, les gars, là, démontré avec certitude qu'il était en état d'ébriété, là, mais il a admis lui-même qu'il avait eu quelques consommations. Semble-t-il que les tests élémentaires de sobriété qui ont été menés là, par les policiers sur le lieu de l'accident n'étaient pas convaincants. Tu sais, c'est triste, une situation qui est vraiment pas chic. Puis, c'est un gars qui a eu par le passé des gros problèmes de consommation. Là. Les fils d'Andy Reid, on sait qu'il y en a un qui est mort il y a plusieurs années de ça, lorsqu'il était avec les Eagles, d'une overdose d'héroïne. Donc, tu sais, j'ai pas envie là, de taper sur le clou puis tout ça, mais il reste que là, il y a la vie de personnes complètement indépendantes là, de lui qui sont en danger. Ça, c'est triste, honnêtement. Puis Britt Reid, dans ce contexte-là, ben tu sais, on l'envoie au bar de manière symbolique, c'est-à-dire que on va quand même pas lui sortir un cocktail ou quoi que ce soit là. Donc c'est zéro consommation. Il est là vraiment là pour le symbole qui est on punit quelqu'un. Mais j'espère de tout cœur que la petite fille va s'en sortir. Première des choses. Deuxièmement, sur le plan football, qui est quand même secondaire dans l'équation, mais faut le dire quand même, ça a certainement pas aidé la cause d'Andy Reid et des Chiefs. Tu sais, ton fils se retrouve dans
c'est
une
situation... C'est toute une distraction, là.
Ben, tu sais, t'as beau dire non, Andy Reid a commenté après le match en disant « Le plan de match était déjà implanté, ça a rien changé à notre préparation. » Écoute, je peux pas croire que mentalement...
À un moment donné, il parlait de l'amener au Super Bowl, il savait pas. Tu sais, imagine tout le processus décisionnel. En une gestion de crise, là, ça prend toutes tes énergies. Moi, je suis convaincu que ça a eu un impact, là.
Tu sais, les gars, vous avez des enfants, vous savez, là, il nous arrive une affaire de même. Pensez-vous qu'on est prêt 100% mentalement à diriger un Super Bowl? Écoute, ça a nuit à son équipe. Comme je le disais, ça, c'est en arrière-plan par rapport à une possible fatalité là, concernant la vie d'un autre être humain. Là. On s'entend que le Super Bowl devient moins important dans ce contexte-là, mais sur le plan football, je l'envoie au bord parce qu'il a clairement nuit à la cause de son équipe. Je dis pas que les Chiefs auraient gagné si c'était pas de ça, attention. Mais il a clairement pas placé son équipe dans une position favorable en termes de préparation là, pour le match.
Énorme distraction. Moi, je suis convaincu que ça a eu un impact dans la préparation et même dans la journée du Super Bowl. T'sais, on disait que les gars étaient émotifs, qu'ils ont eu de la difficulté à avoir la pression. Ça a dû être une semaine, en tout cas 3-4 jours, vraiment émotif. Trajet dans l'avion, en tout cas, je suis d'accord avec toi. Je suis certainement que ça a eu un impact et on souhaite le meilleur, évidemment, aux vraies victimes de cet accident. Et j'espère que si c'est démontré qu'il y aura qu'il avait consommé de l'alcool, qu'il y aura des conséquences et que la NFL sera pas clémente.
Okay. L'autre chose, juste finir là-dessus, il y a un GoFundMe qui a été parti là, pour aider la famille pour essayer d'acquitter les frais médicaux là, de la petite fille en question. Puis à date, les Chiefs n'ont pas levé le petit doigt. Ça, c'est très décevant. Il faudrait à un moment donné participer à l'effort de guerre. Je pense que la famille Hunt est pas à court d'argent. Ils ont probablement beaucoup plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Ça serait bien, là, à un moment donné, de lever le petit doigt puis de s'impliquer fortement dans ce dossier-là. Là. Pas juste à titre symbolique, là, mais de vraiment faire quelque chose de concret et de marquant.
Johnny Boy.
Ouais, mais je vais essayer de terminer de mon côté avec une note plus sympathique.
Ah oui, donc?
Moi, j'en vois au bord. Écoute, il y a quand même un journaliste qui a pas voté pour Alex Smith comme retour de l'année. C'est pas unanime. 49 votes sur 50 ont été pour Alex Smith comme retour de l'année. C'est pour ça qu'il a gagné le trophée, évidemment. Mais le gars qui a choisi Big Ben, ouf, à quoi qu'il pensait?
Mais qui choisisse n'importe qui, là. Tu choisis pas pour cette catégorie-là. C'est clair, oui. clair. Peu importe qui a choisi, ça n'a aucun bon sens.
Mais, et ma question, qu'est-ce que ça prend de plus à Alex Smith pour qu'il ait le retour de l'année?
Ah, oh, c'est un scandale, ça.
Tu sais, une opération de plus, il était rendu à 22, il a failli mourir. Je veux dire, à quoi qu'il pensait, j'en ai aucune idée. Et pour ça, ben, je vais condamner. Écoute, on le sait pas, on connaît pas l'identité du journaliste, mais je le condamne.
C'est de Pittsburgh.
Écoute, je suis fâché, là. Je suis fâché. Je le condamne à boire quelques whisky sour, les gars. C'est du bourbon avec un peu de jus de citron, sirop. blanc 2. Puis écoute, ils vont s'en prendre quelques-uns. Puis on va espérer qu'ils voient un peu l'étendue de son vote, à quel point il était pathétique.
Ouais, bon, puis gêne-toi pas, Johnny, pour mettre beaucoup trop de citron. Il faut quand même que ça soit un peu dégueulasse.
Puis, je vais évidemment terminer, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup du show de la mi-temps, parce qu'on n'est pas spécialiste aucun de nous autres en termes de spectacle. Moi, je suis resté assez froid par rapport à The Weeknd, qui a une belle voix, mais pas nécessairement une présence scénique phénoménale. Mais je vais peut-être envoyer quelqu'un au bar qui, lui, a une autre explication par rapport au spectacle de la mi-temps. C'est l'ancien porteur de ballon des Chiefs, justement, Larry Johnson, qui y a vu un rituel satanique.
Bon. Merci les gars, au moins, de finir ça sur une note humoristique. Je sais que j'ai été lourd avec mon choix, mais fallait en parler. Je me suis mis la tête sur le bio, mais là au moins vous me faites rigoler avec des hurluberlus. Là, vraiment, le bar va être quand même sympathique cette semaine.
Exact. Et Larry Johnson, il pourra boire une coupe de son sang s'il veut faire un véritable rituel satanique ou tout simplement prendre un verre d'eau pour se dégriser.
Ah!
Eh oui, qu'est-ce que tu veux? C'est peut-être trop de quoi à la tête. OK. Merci les gars pour cette saison. Ça a été vraiment très... Vous m'avez appris beaucoup de choses dans cette saison de la zone payante. Vous êtes deux experts qui parlaient avec passion du football et avec des grandes connaissances. Je vous remercie pour ça. Et on va se retrouver...
Faut remercier nos auditeurs. On fait
évidemment,
ça pour
vous. C'est exact.
Notre principale source. Ils sont de plus en plus nombreux. Donc, on vous salue tout le monde. Moi, c'est un privilège de parler de football avec Steph, avec Jean-Luc. Ouais. C'est un show qu'on aime beaucoup faire dans notre semaine.
On s'investit là-dedans, mais on a beaucoup, beaucoup de fun. On est content que vous soyez là. Puis, on veut de tout cœur continuer de répandre la bonne nouvelle, mesdames, messieurs.
Exact. Ben merci à vous deux. Merci aux auditeurs. Merci aux gens qui ont rendu aussi ce podcast possible, parce qu'il y a des artisans derrière ça aussi. Je pense à Philippe Séguin, entre autres. Merci à vous autres et on se retrouve l'an prochain. Bye!